Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce Café des Sports de Radio Foot International. Bienvenue. J'espère que c'est et ce doit être le dernier Café des Sports à distance. Dès lundi, nous pourrons retourner dans notre studio à RFI. Et lundi, ça sera un jour très important pour notre émission et comme chaque année pour RFI, puisque nous parlerons du lauréat du prix Marc-Vivien Fauet. Et cette fois, évidemment, le lauréat 2020. En attendant, je vous présente nos invités du jour qui sont évidemment déjà là au rendez-vous. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie et bonjour à tout le monde. Je suis rouge.
Oui, je vois. Pour ceux qui ne peuvent pas vous voir, eh bien, vous avez un très beau maillot rouge. Et évidemment, j'imagine à qui vous pensez, à un club d'Angleterre, n'est-ce pas? Tout comme d'ailleurs Xavier Barré, vous vous êtes donné le mot tous les deux là. Xavier Barré, vous êtes aussi en rouge. Bonjour.
Bonjour Annie. Oui, c'était vraiment le jour où mettre la veste rouge parce que cet événement est incroyable. Liverpool champion, fait 30 ans d'attente. C'est plus que du football, c'est un phénomène de société.
Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Annie Gasnier, bonjour à tous.
Bon, on fait dans la neutralité, nous, hein. on n'a pas choisi de couleur. Tout à l'heure, Matteo Cioffi nous retrouvera pour parler de l'Italie. Et puis, derrière moi, pour préparer cette émission, il y a bien sûr, et comme chaque semaine, David Finzel, mais aussi Laurent Salerno et Swell Kedir, qui magnifient tous nos propos et toute cette émission. Alors aujourd'hui, le menu, il sera trilingue, anglais, espagnol et italien. Parce que le sacre des Reds, comme le veut la couleur rouge du jour, 30 ans d'attente, comme vous le disiez, Xavier, 30 ans d'attente pour Liverpool et tous ses fans à travers le monde. L'équipe de Sadio Mané, Mo Salah, Naby Keita, Joël Matip, mais aussi Henderson, Milner, Van Dijk et tous les autres, a été sacré hier soir à l'issue d'une année record. Le 19e titre de l'histoire de cette équipe, nous y reviendrons. Et nous reviendrons aussi sur ce personnage qui est à la baguette dans cette équipe, c'est le charismatique Jürgen Klopp. Non, il ne marche plus tout seul, les supporters de Liverpool. Nous évoquerons aussi en Espagne le suspense qui reste de mise. Les Merengues sont toujours premiers, mais toujours à la différence de but particulière avec les Blaugrana. Alors qu'en Catalogne, un débat agite les observateurs. L'arbitrage favorise-t-il le Real Madrid ? Sergio Ramos s'en moque et marque encore. Léo Messi, lui, a soufflé sur ses 33 bougies. Comment gère-t-on l'avancée des ans quand on est une star et sans doute l'un des meilleurs joueurs au monde? Enfin, en Italie, le suspense dure aussi. La défaite de la Lazio à un moment où la Juventus se ressaisit est-elle un tournant dans cette bagarre au sommet? Et puis nous évoquerons l'Atalanta qui met du baume au cœur à tous les habitants de Bergame et qui nous montre que le foot italien, ce n'est pas seulement le catenaccio. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
For now, tell the world we are Liverpool, champions of England.
When you are
Liverpool are champions
through a storm.
Ce chant résonne à chaque match, comme dans une cathédrale, donnant des frissons, même à travers un écran de télé. Anfield, théâtre des exploits de Liverpool et de tant de désillusions. Il y a 6 ans, on s'en souvient tous, ce titre promis et puis cette triste glissade de la légende du club, Gérard, qui glaçait l'assistance. 30 ans donc d'attente, 30 ans de lutte et de bagarre. Hier soir, personne à Anfield, car les Reds ont remporté leur couronne après la défaite des Citizens à Chelsea. Il n'y avait donc personne dans le stade, quelques supporters autour, mais évidemment, l'époque coronavirus empêche les festivités. En tout cas, le dernier match à huis clos des Reds, c'était la veille, c'était mercredi soir, terminé par 4-0. La 28e victoire de la saison pour une seule défaite en 31 matchs. C'est aussi la 23e victoire consécutive, 23 points d'avance du jamais vu ici à la 31e journée. Bref, cette équipe est en plus toujours championne d'Europe. Alors soulagement, car évidemment l'année a été perturbée. On pensait que le virus peut-être pourrait tout gâcher. Ce n'était pas le cas, il y a eu des festivités. Rémi Ngono, est-ce que ce titre qui arrive 30 ans après, 30 ans et on reviendra sur toutes ces années et tous ces records, est-ce que c'était émouvant pour vous?
Très émouvant parce que ça a été très difficile, d'autant plus que l'année dernière, Il faut quand même se dire que Liverpool a manqué le coach de très très peu parce que nous étions encore en décembre, mi-décembre. Liverpool était en tête du classement et il y a eu un événement qui s'est produit que les gens n'ont pas beaucoup remarqué, à savoir qu'ils avaient perdu non seulement le défenseur Matip, le défenseur central, parce qu'on ne voit que Van Dijk, mais surtout, ils avaient perdu aussi leur meilleur latéral, Alexander, qui, bien évidemment, fait aussi beaucoup de passes décisives. Donc, Alexander, à notre point. Donc, à partir de là, il y a Liverpool qui a beaucoup peiné, et de telle sorte que, lorsque vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière, eh bien, j'avais pitié pour eux de finir de cette façon-là. Donc, cette
à
fois-ci...
un point du champion, hein. Ils étaient à un point seulement de Manchester City.
À un point du champion, et franchement, cette année, ils ont commencé très, très fort. Ça a été très difficile. Donc, depuis pratiquement trois saisons d'affilée, ils sont en train de livrer des performances hors normes. Il y a un proverbe africain qui dit « La moelle la plus précieuse est dans l'os le plus dur ». Donc, tout est ski pour moi.
Xavier Barré, cette course au titre, on voit que cette année, Liverpool avait tout mis de côté, bien sûr, et commençant très vite, très fort, tenant le rythme de l'année dernière, finalement, hein, quand je parle de victoires, ils ont accumulé aussi un nombre de victoires, c'est absolument incroyable. Ils ont surtout marqué 104 points en 38 matchs, si on ne compte pas seulement la saison, mais sur une année civile. Donc, et il y avait encore City sur leur route, malgré tout. Hein. City qui, l'année où Steven Gerrard glisse, c'était déjà City qui avait été champion. Donc, ce City était sur leur route et là, c'est eux qui leur donnent le titre.
Oui, alors c'est surtout Chelsea qui leur donne un coup de main après la fameuse glissade que vous évoquiez de Steven Gerrard il y a 6 ans et Dembaba qui va marquer ce but à Anfield, qui prive Liverpool du titre, eh bien là, c'est Chelsea qui, en battant Manchester City, leur donne ce titre de champion qu'ils attendaient depuis 30 ans. Et pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, contrairement à ce que insinue Olivier Pron, je ne suis pas supporter de Liverpool, mais j'ai un profond respect pour ce club. Parce que quand j'ai grandi, on est à peu près de la même génération, dans les années 70-80, Liverpool, c'était le meilleur club d'Europe. C'était l'équipe à battre. C'était le modèle à copier. Et quand je suis arrivé à France Football en 1990, ils étaient champions d'Angleterre. Et j'ai travaillé pendant 26 ans au sein du groupe L'Équipe France Football et ils n'ont jamais été champions d'Angleterre. Donc, vous vous rendez compte, 30 ans d'attente pour un club qui a cette dimension, c'est incroyable. Les Scousers, les Liverpooliens qui ont moins de 30 ans n'ont jamais vu leur club champion alors qu'il a gagné des Coupes d'Europe. Alors, c'est assez incroyable ce qu'a réussi Jürgen Klopp et je pense qu'il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau énorme parce que c'est vraiment lui qui a bâti cette équipe. En 4 ans et demi, il en a fait une machine incroyable. Je vais juste vous donner une petite information pour finir. C'est la composition de l'équipe du premier match dirigé par Jürgen Klopp en octobre 2015. Dans les buts, Simon Mignolet. En défense, Klein, Skartal, Mamadou Sakho, Alberto Moreno. Au milieu, Milner, Lucas Leiva, Emre Can. En attaque, Lallana, Philippe Coutinho, Origi. Il en reste un seul de
Milner.
Cette équipe. Voilà, Milner. C'est montrer quel travail il a fait, non seulement dans l'organisation de l'équipe, mais aussi dans le recrutement. Peut-être qu'on va en parler, mais c'était un point déterminant sur lequel il a été extrêmement performant aussi. Et c'est un côté de lui, une facette de ce personnage qu'on oublie parfois.
Olivier Pron, en parlant de l'équipe justement, on dit souvent que cette équipe, ce n'est pas que des stars, parce que des stars, comme on pense à celle de Cristiano Ronaldo, mais si souvent, ce n'est pas que des stars, mais en même temps, c'est quand même des joueurs qui valent très cher. On se souvient du transfert de Van Dijk, donc c'est quand même un groupe et alors façonné à la manière Jürgen Klopp.
Ce ne sont pas des stars. Alors moi aussi, hein, comme Xavier Barret, j'ai bien sûr la nostalgie de cette équipe, comme tout le monde. On est tous de la même génération. Il n'est pas nécessaire pour ça d'afficher ses couleurs. En revanche, on a tous été bercés par Kelly Dalglish, par Ian Rush, par cette époque-là du football charmant de ces années-là et de ce Liverpool flamboyant. On a tous rêvé sur le Never Walk Alone et on a tous eu envie un jour d'être à Anfield. J'espère qu'on y sera tous ensemble d'ailleurs un jour, pourquoi pas, avec Radio Foot. Oui, pas de stars ou des stars qui sont devenues, qui ne sont pas arrivées en tant que stars, parce que aujourd'hui, mettre des dizaines de millions d'euros, n'importe quel pimpin dans le foot moderne peut valoir quelques dizaines de millions d'euros. C'est un peu tout et n'importe quoi, les prix des transferts, surtout en Angleterre. En revanche, des joueurs qui sont peut-être arrivés chers, mais qui n'étaient pas des stars, mais qui le sont devenus. Sadio Mané est une star aujourd'hui. Van Dijk est une star aujourd'hui. La plupart des joueurs de cette équipe sont pas des stars, mais enfin, sont quand même des joueurs. Mohamed Salah est connu presque aussi dans le monde entier. On a affaire quand même à une équipe qui est championne du championnat le plus médiatisé au monde. Donc forcément, tout le monde connaît ces joueurs-là et ils ont pris encore plus de valeur. Le talent de Jürgen Klopp est évidemment, et d'avoir réussi à en faire des stars et en même temps à faire un groupe plutôt soudé et uni qui a maîtrisé cette saison. Vous cherchiez le nombre de victoires tout à l'heure. C'est vrai, c'est 28 victoires en 31 matchs. Il doit y avoir 2 nuls et 1 défaite. C'est exceptionnel comme parcours. Pour mettre Manchester City à 23 points, je me souviens, on a diffusé hier une interview de Jürgen Klopp dans les journaux des sports à RFI hier matin. Jürgen Klopp disait « Ne me demandez pas quand je vais être champion, peu importe. Je me dis simplement, quand je réfléchis au parcours qu'on a fait, on a dû faire 2-3 trucs pas mal quand même pour avoir réussi à mettre Manchester City et Pep Guardiola à 23 points. C'est qu'on a quand même dû réussir 2-3 trucs bien. »
Oui, parce que hier on soulignait que Manchester City, par contre, a eu beaucoup de mal avec ceux qui étaient en haut du tableau de ce championnat d'Angleterre où ils ont eu souvent des défaites à encaisser. Mais Rémi Ngono, sur le parcours de Liverpool, c'est vrai que ces dernières années, donc Jürgen Klopp est arrivé il y a deux ou trois saisons, si je me trompe pas. Il en a fait une machine de guerre, mais on se souvient que dès qu'il arrive, il arrive à emmener son équipe en finale de la Ligue Europa, même s'il la perd. Et d'ailleurs, il avait un peu ce côté de perdant, celui qui porte malheur. Ils perdent aussi la finale de Ligue des Champions, mais 2 années de suite, ils font une finale de Ligue des Champions et la deuxième fois, ils le remportent. Et puis là, c'est pareil. Le championnat, ils sont deuxième l'an dernier à 1 point et là, ils sont largement devant. C'est extraordinaire.
Oui, extraordinaire, surtout que lorsque vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, les gens voient un Liverpool qui remporte la Ligue des Champions, mais ils ne voient pas que c'est un Liverpool qui aurait pu être éliminé au premier tour. Parce que les 3 matchs à l'extérieur de Liverpool, d'ailleurs, ils les perdent. Et finalement, Jürgen Klopp va revoir des choses, de sorte qu'ils vont battre Naples sur le fil, 1-0. C'est ça qui fait que, justement, ils se qualifient. Et par la suite, ils sont intenables. Mais comme je le dis également aussi, Jürgen Klopp a compris ce que beaucoup de gens, peut-être, ont parfois eu à discuter ici, à savoir que vous pouvez avoir de bons attaquants, mais surtout, il faut une bonne défense. Rappelez-vous quand même que le dernier but encaissé par Liverpool, c'est-à-dire que c'était le 20 janvier, et il a fallu attendre 50 jours pour voir encore Liverpool encaisser. Lorsque vous recrutez un joueur comme des défenseurs Van Dijk ou encore Matip, je dis toujours Matip parce que c'est quelqu'un qui est très
c'est
important dans le Jürgen Klopp. Et puis, dans le Camerounais, oui, parce qu'il faut dire ça. Et de l'autre côté, il faut savoir qu'il a aussi eu de très, très bons héros. Donc, Robertson, d'un côté, comme j'ai dit, le meilleur latéral peut-être au niveau de passe, décisif aujourd'hui en Europe, Alexander Trent-Arnold. Donc, je me dis qu'il a vu cela. Mais, à une certaine mesure, il a aussi stylisé l'effectif. Cela veut dire qu'il a beaucoup dépensé, ce que les entraîneurs demandent souvent, mettez de l'argent. Mais par la suite, il n'a pas recruté du tout. Rappelez-vous que cet été, il n'a dépensé que 2 millions d'euros, alors que Pep Guardiola a dépensé 155 millions d'euros. Manchester United a dépensé 169 millions d'euros. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Keita était blessé, il a repris, Origi était là, et puis il dit, je vais avec ma machine, ce sont mes recrues. Un effectif où les gens jouent avec un système huilé, ça va très bien.
Oui, et puis il a découvert en plus ou fait connaître un certain nombre de joueurs. On pense à Alexander Trent-Arnold, on pense aussi à Henderson, il les a mis en valeur en tout cas. Mais Xavier Barré, Jürgen Klopp, il a essayé d'instaurer des choses et notamment dans cet esprit de Liverpool, l'équipe est pour l'instant invaincue à la maison et cela depuis le 23 avril 2010.
25 matchs série en cours.
Exactement, donc c'est déjà faire peur à l'adversaire a priori, mais malgré tout, on voit que l'importance de la Première Ligue cette année, alors qu'ils sont éliminés, déjà eux les champions d'Europe en titre, éliminés de la Ligue des Champions. Ce n'était pas l'objectif, clairement.
La Première Ligue, si, c'était clairement l'objectif.
Non, l'Europe, on l'a un peu bradé pour la Première Ligue, on l'a sacrifié.
Et s'ils avaient pu éliminer l'Atlético de Madrid, ils l'auraient quand même fait. Mais c'est vrai que l'objectif, mais ils l'ont pas caché, c'est le titre de champion. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu, parce qu'en Angleterre, il y a 3 compétitions domestiques. Ils ont laissé filer la Coupe de la Ligue en mettant des équipes de remplaçants. Ils ont également laissé filer la Cup, ils ont été éliminés par Chelsea. L'objectif, c'était clairement le championnat. Et les résultats donnent raison à Jürgen Klopp, parce que finalement, cette attente de 30 ans en pendant ces 30 ans, Liverpool n'a pas eu un palmarès vierge non plus. Ils ont quand même été deux fois champions d'Europe. Faut pas l'oublier. C'était quand même extraordinaire. Ils ont atteint des finales de Coupe européenne. Vous le rappeliez, Annie. L'Europa League dès sa première saison en 2016. Perdu contre Séville. Donc, c'est un club qui a effectivement un palmarès qui reste extraordinaire, mais ils n'avaient pas ce titre de champion. Et pour eux, c'était ce qu'il fallait gagner. Et là, donc, cette année, ils se sont reconcentrés sur cet objectif et ils l'ont atteint. Maintenant, je voudrais juste apporter un petit correctif à ce que disait Rémy Ngono, parce qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses, mais on ne peut pas toujours être d'accord non plus. Quand il dit que Liverpool a dépensé que 2 millions d'euros cet été, c'est vrai, mais depuis que Klopp est là, ils ont quand même investi plus de 300 millions d'euros sur le marché des transferts. Et je vous donnais la composition de la première, du premier Liverpool version Klopp en octobre 2015, si je peux terminer. Il reste un seul joueur dans l'effectif. Donc il y a eu un gros travail de recrutement. Il a été fait très intelligemment parce qu'effectivement beaucoup de ces joueurs n'ont pas coûté très cher et aujourd'hui ils ont été valorisés, ce que disait aussi Olivier Pont tout à l'heure. Mais il y en a certains sur lesquels ils ont quand même mis beaucoup d'argent. Bien sûr, Virgil van Dijk qui est la clé de voûte de cette réussite parce qu'il est venu stabiliser la défense, mais aussi le gardien Alisson. Hein, ils l'ont quand même Alisson, ils l'ont payé 62 millions d'euros. Donc voilà, il y a eu quand même des investissements lourds pour compléter ce groupe qui a su ensuite grandir ensemble.
Oui, mais ils avaient vu la finale précédente, que l'importance d'un gardien dans les buts en finale de Coupe d'Europe. Olivier Pron, pour terminer, on y reviendra de toute façon la semaine prochaine dans Radio Foot International, mais le seul regret, évidemment, c'est que ce sacre se fait au bout de 30 ans et à un moment où, pour l'instant, on ne peut pas encore véritablement fêter cela. On a vu quelques supporters hier, on a vu quelques fumigènes rouges, mais c'est vrai que la joie dans les rues de Liverpool, on l'attend encore et on promet un défilé des joueurs quand on pourra là-bas.
Oui, c'est ce qu'a dit Jürgen Klopp, c'est ce qu'il avait dit. On a vu aussi une vidéo assez sympa de joueurs qui étaient tous réunis chez l'un d'entre eux, probablement. On a constaté qu'il faisait beau et chaud aussi à Londres, ils étaient tous dehors et les images étaient très très sympas. C'est des gars quand même qui savent depuis des semaines qu'ils vont être champions. Il n'y avait pas trop de suspense. Et ben, leur joie, elle était sympa à voir hier. Il y avait comme un soulagement, ils ont fait un compte à rebours, ils sautaient dans tous les sens. Il n'est pas recommandé de se regrouper en ce moment en Angleterre comme chez nous. On a quand même vu des centaines de supporters autour dans le field et c'est bien normal. Ils attendent depuis si longtemps, donc bien sûr qu'il y a une frustration. Je regardais les records justement avant de terminer. Cette équipe, elle a tellement maîtrisé un championnat ultra concurrentiel. C'est pas la Ligue 1, c'est pas la Liga où en général il y a deux ou trois équipes. C'est quand même un championnat ultra concurrentiel. C'est la première fois de l'histoire de la Première Ligue qu'un champion est champion dès la 31e journée. C'est quand même extraordinaire. Je vous disais tout à l'heure, 25 victoires consécutives à domicile. Eh ben, je vous ai menti, Annie. C'était 23. C'est la série. La série est en cours, mais c'est quand même extraordinaire. Ils ont effacé des tas de records des tablettes cette saison grâce à Jürgen Klopp. Deux petites choses. J'ai oublié le nom des deux autres. Il n'est que le troisième manager de Liverpool à être champion d'Europe et champion d'Angleterre dans toute l'histoire énorme de ce club. Et puis la dernière chose, quand on parlait palmarès, il n'avait pas été champion depuis 30 ans, mais on se souvient de l'année exceptionnelle. Alors j'en appelle à Xavier Barret qui va tout de suite me dire quelle année c'était, avec Gérard Rouillet, où ils avaient raflé toutes les coupes possibles, je crois, 5 trophées à l'issue de la saison. Il ne manquait que le championnat de Première Ligue. Donc, chapeau. Ça fait plaisir à tellement de monde, ce titre. Même quand on n'est pas supporter de Liverpool, on est content.
Ça fait plaisir.
En 2001, Annie.
Oui.
Voilà. 2001, merci, Xavier.
Où ils gagnent toutes les coupes, y compris la Ligue Europa, qui s'appelait à l'époque Coupe de l'UEFA. Et Gérard Rouillet, finalement, est remercié quelques années plus tard. Je crois qu'il est remercié en 2005. Et quand il s'en va, il dit « Voilà, vous me remerciez alors que j'ai apporté tant de titres. » Oui, mais pas le championnat. Et c'est ça qu'il voulait être.
Oui, exactement. Et en plus, l'année dernière, on avait vu un champion être sacré avec 100 points, hein, puisque c'était un record en Angleterre. Il y est à parier qu'avec le nombre de journées qui restent encore en Angleterre, eh bien, peut-être qu'en plus, Liverpool pourrait passer cette barre des 100 points.
Et juste un petit mot. Si on fait le compte, on a Salah, l'Égyptien, Mané, le Sénégalais, Matip, le Camerounais, Naby Keïta, Guinéen. Donc ça fait 4 Africains champions d'Angleterre. Il y en avait eu qu'un seul dans toute l'histoire de la Première Ligue, et c'était déjà avec Liverpool. C'était Bruce Grobler, Zimbabwéen, si je ne m'abuse. Il n'y avait jamais eu d'Africain depuis champion d'Angleterre. Ben voilà, c'est pour boucler la boucle.
Et on reparlera de Liverpool la semaine prochaine, puisque il y aura un choc. Alors, ça sera un choc pour l'honneur, bien sûr, entre les deux clubs, entre Manchester City et les Citizens. Le match sera à Manchester, pardon, avec les Citizens, et ce sera donc face à Liverpool. Ça sera jeudi soir, et nous en reparlerons donc dans Radio Foot.
Ramos, il va la placer.
Ramos from 25. Oh! Stupefyingly magnificent, Sergio Ramos.
Merci Ramos. Ramos.
Exceptionnel du capitaine du Real Madrid. 2-0 avec cette merveille de Sergio Ramos.
Sobre el Madrid, el puntero de Sergio, enorme, enorme Ramos. 8
goles. Le Real reprend donc la tête de la Liga.
Oh, por Dios.
Ils ont donc gagné. Blaugrana d'abord, 1-0 au Camp Nou, délivré par Rakitic. Et le lendemain, les Merengues, 2-0 face à Majorque dans leur petit stade, mais qui apparemment leur porte bonheur. Au classement, le Real Madrid est donc devant, même nombre de points que le Barça, mais à la différence particulière. Alors très tenu, hein, mais c'est ce qui fait loi actuellement. C'était donc... Alors en plus, il y avait beaucoup de choses à souligner. 1100e victoire à domicile en Liga du Real, la 300e victoire en championnat pour Sergio Ramos, qui a inscrit en plus son 8e but de la saison et le 69e de sa carrière, et c'était le 200e match de Raphaël Varane. Mais une fois encore, il y a eu des décisions arbitrales, on va dire discutables, voire contestables, et elles se sont ajoutées à d'autres dans les matchs précédents. Résultat, la presse de Catalogne, notamment Mundo Deportivo, a allumé la mèche. Le débat était lancé en Espagne. Le Real serait avantagé. Les décisions arbitrales le favoriseraient. Alors, on pense au carton jaune que n'a pas pris Ramos, à la faute aussi sur Cavajal avant le premier but du Real face à Majorque. Il y avait eu aussi un but refusé à la Real Sociedad. Pensez-vous que le capitaine Sergio Ramos, qui dénonce un film hein, de ses adversaires, il dit que c'est parce que le Real est devant, Rémi?
Bien sûr que c'est un véritable film. Tout un chacun connaît quand même le Barça. C'est le Barça qui, chaque fois, est champion d'Espagne.
Mais Rémi, bon. Vous êtes d'accord qu'il y a eu quand même des décisions discutables des arbitres?
Mais c'est ça l'arbitrage. Même quand il y a la VAR, il y a toujours des discussions. Mais vous ne vous rappelez
pas. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas la VAR.
Sûr. Attendez, vous ne vous rappelez pas que vous avez vu Lionel Messi marcher sur le pied d'un défenseur, même pas un carton jaune, alors que au niveau du Real, c'est carton rouge. Donc, Messi, on n'a même pas blâmé. Il marche sur le pied d'un joueur. On n'en discute pas. Il faut se rappeler que chaque fois que le Barça joue la Liga, il faut que le Barça gagne. Mais rappelez-vous quand même, avant que Mourinho n'arrive, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, le Barça était sur 8 Ligas. Et on ne se plaignait pas, on disait juste que le Barça avait tous les pénaltys du monde. Mourinho gagne la Liga, on dit non, le Real est déjà favorisé. Maintenant, Zinedine Zidane arrive. Est-ce que Zinedine Zidane, au Camp Nou, où il n'a pas perdu 4 matchs, c'était grâce à l'arbitre? Bien au contraire, le Barça aurait perdu au Camp Nou face à Zidane au moins 2 autres matchs. Mais grâce à l'arbitre, le Barça a pu sortir de ce gouffre-là. Donc, d'accord, si en 4 matchs, vous ne gagnez pas...
Il faut arrêter un peu, Rémi Monod.
Donc, vous pensez que c'est un film.
Vous ne gagnez pas chez vous à domicile.
Il faut arrêter un petit peu. Mauvaise foi de Rémi Monod pour justifier les problèmes d'arbitrage actuels. Il va rechercher des histoires vieilles d'il y a 10 ans. Si tant est qu'elle soit...
Non, c'est pas il y a 10 ans, le titre avec Mourinho, Xavier Barré.
Oui, il y a 8 ans. Donc,
il y a 10 ans.
En ce qui concerne la saison actuelle, et pourquoi, effectivement, c'est tout à fait scandaleux, c'est l'accumulation des erreurs. Il peut y avoir une erreur d'arbitrage sur un match.
Mais Xavier, ça veut dire quoi? Que les arbitres se sont mis d'accord pour favoriser le Real?
Moi, j'irai pas jusque là, mais je dirais qu'il y a une pression qui est mise sur les arbitres à Madrid. En plus, là, ils sont pas dans leur stade habituel, ils sont dans leur stade d'entraînement, ils sont vraiment chez eux, dans un stade que les adversaires d'ailleurs ne connaissent pas, puisque on va pas jouer d'habitude dans les stades d'entraînement. Eh bien, ils mettent une pression sur les arbitres,
Et du il n'y a même pas d'explication.
On oublie contre Eibar un hors-jeu, ce qui fait qu'il marque dès la quatrième minute. Alors, vous savez bien qu'Eibar, ils viennent pour défendre, donc ça change tout le match. Contre Valence, on refuse un but valable alors qu'il y a 0-0. Du coup, le Real finit par s'imposer 3-0. Et pour finir, lors du dernier match, il y a encore une faute de Dani Carvajal, comme l'évoquait Annie, sur un joueur de Mallorca. Et derrière, il y a sur le contre, il y a Vinicius qui va marquer.
Donc, il y a un coup d'épaule.
Ça fait trois matchs qui sont faussés par les erreurs d'arbitrage, sans oublier la main de Benzema avant le but contre la Real Sociedad. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux. Et les gens à Barcelone peuvent légitimement s'indigner de ces avantages accordés au Real Madrid. Il y aurait une erreur, d'accord. Mais là, ça fait trois matchs où les erreurs d'arbitrage penchent toujours en faveur du Real Madrid.
C'est d'ailleurs 125 erreurs en faveur du Barça.
125 erreurs. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad, après le match qu'ils ont perdu chez eux à Saint-Sébastien. Il a dit, c'est incroyable, les décisions arbitrales, il peut y avoir des moments où là, il y a une décision à prendre, mais c'est toujours en faveur du Real Madrid.
Olivier Pron, essayez de départager nos deux adversaires hein, ici dans Radio Foot International. C'est aussi le suspense du mano à mano. Est-ce que vraiment on peut imaginer qu'il y a un vent pro-Réal ?
Ouais, moi, je le crois pas. Je conteste pas les erreurs d'arbitrage. On dit toujours, à la fin de la saison, ça s'équilibre. Je sais pas si c'est vrai, je le pense quand même. Le vent tourne en faveur du Réal en ce moment. Mais pour autant, est-ce que les arbitres cherchent à avantager le Real ? J'en suis pas convaincu. Je pense que bon, voilà, ce sont des faits de jeu, c'est comme ça. Peut-être que le Barça, dans les journées qui viennent, aura lui aussi à son tour des erreurs d'arbitrage en sa faveur, ou un arbitrage digne, tout simplement. Je pense que les erreurs d'arbitrage, elles sont malheureusement légion partout, que la VAR n'a absolument rien solutionné, absolument pas. On l'a vu aussi en Angleterre. On se demande d'ailleurs, moi je me suis demandé très franchement cette semaine, en regardant ces différents matchs, s'il y avait bien la VAR ou si à cause de la pandémie, on avait décidé aussi d'enlever la VAR pour qu'il y ait moins de monde dans les stades. Et on m'a confirmé qu'il y avait bien la VAR, alors je comprends pas. Je la trouve absolument sous-utilisée pourtant, en permanence, quel que soit le championnat en ce moment. Et c'est bien dommage, elle serait bien utile.
Et pourtant, on voit les arbitres hein, se déplacer jusqu'à l'écran parfois. On va continuer. Léo Messi a soufflé ses 33 bougies cette semaine. C'était mercredi 24, la veille. Le 23, c'était Zidane et Patrick Vieira qui soufflaient aussi leurs bougies. Mais Léo Messi, évidemment, le joueur qui a remporté autant de trophées, qui a remporté autant de souliers d'or, qui a remporté autant de ballons d'or, toujours essentiel au Barça depuis 2006, hein, rappelons-le. Que peut-il penser de l'âge de la retraite, Xavier Barré ? Est-ce qu'il y pense déjà ? Est-ce qu'il se dit qu'il faut peut-être sortir par le haut ? Est-ce qu'il peut nous surprendre ?
Si on s'en tient, son contrat se termine l'an prochain. Hein, il a encore un an de contrat à Barcelone et de toute façon, il y avait une clause qui l'autorise à partir quand il veut. Et si on en croit à l'indiscrétion qui avait été relayée par la presse espagnole il y a quelques mois maintenant, et il avait dit à Neymar, écoute, reviens à Barcelone, de toute façon, dans 2 ans, j'arrête. Donc, est-ce que moi, je pense qu'il a un objectif aujourd'hui, Léo Messi, c'est la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, parce qu'il veut absolument rapporter quelque chose à l'Argentine et c'est sa dernière chance, en gros. Donc, ça veut dire la fin de son contrat à Barcelone 2021, la Coupe du Monde 2022, j'imagine qu'il va pas s'arrêter dans un an, plutôt dans 2 ans, mais forcément, il y a un moment ou un autre où il va s'arrêter, parce que je le vois pas continuer comme ça jusqu'à 40 ans. Sa passion du jeu, elle est authentique, mais aller jouer après pour courir des petits, j'allais dire, pas des petits cachets, parce que c'est plus un problème d'argent dans son cas, mais des défis secondaires, c'est pas à son niveau. Donc je pense que comme beaucoup de grands champions, comme Platini, comme Pelé, il va s'arrêter un moment pour sortir effectivement par la grande porte.
Olivier Pron, j'imagine qu'en plus dans la tête d'un tel joueur, c'est la peur de la saison de trop.
Ben moi, je suis pas sûr. Je suis pas tout à fait d'accord avec Xavier. Je connais pas personnellement Lionel Messi. Ce que je crois percevoir de lui, il a un côté un peu Forrest Gump hein, avec un ballon. On lui donne le ballon, il court partout. Avec beaucoup de talent certes, mais il y a un côté ballon. Et je pense que tant qu'il pourra mettre un pied devant l'autre et qu'il sera capable, et vu l'avance qu'il a techniquement, de mettre dans le vent des défenseurs et des joueurs, moi je pense qu'il continuera et je le vois bien continuer encore au moins 3-4 ans, parce que. Que deviendra-t-il sans les matchs, sans le ballon, sans une semaine? On a l'impression quand même d'un côté très réglé et d'une vie qui est totalement tournée vers le ballon. Et je ne vois pas Lionel Messi entraîneur, je me trompe peut-être, je ne le vois pas. Et je pense que tant qu'il pourra jouer, il jouera, tant qu'il sera en capacité physique de le faire. Et on peut dire qu'il a été assez épargné de ce côté-là, côté blessure. Donc, a priori, il a un corps qui peut tout à fait, et il a une manière de jouer qui physiquement n'impose pas forcément non plus tout étant fluidité, en technicité. Donc, moi, je le vois bien continuer au-delà de 2022 en club.
Rémi, qu'est-ce qui pourrait faire arrêter Lionel Messi? Ou est-ce que vous le voyez, est-ce que c'est finalement s'arrêter un jour avec Barcelone, ou c'est aussi continuer comme on lui prête peut-être aux États-Unis dans une équipe de David Beckham?
Oh oui, contrairement à ce que Xavier Barré dit, qu'il a été épargné par des blessures, que non. Justement, la plus grande performance de Lionel Messi, à part 2012-2013, où il a battu le record de buts sur une année civile, il faut quand même se dire que c'est une petite chute dans la mesure où il faut aussi se rappeler de cette grave blessure qui est survenue pour la saison 2016-2017, c'est-à-dire que rupture de ligament collatéral interne du pied gauche, et depuis, il a eu un peu de difficultés. Adidas a d'ailleurs été obligé de lui faire une chaussure particulière qu'on appelait le F50 Deserzo, FTXS. Enfin, Xavier Barré qui nous parlait des chaussures que c'était uniquement pour Cristiano Ronaldo. Eh bien, il faut savoir que c'est la chaussure la plus légère du monde. 165 grammes pour lui permettre de pouvoir courir et qui programme un certain nombre de choses. Et une chaussure électronique. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'âge, j'ai quand même vu Lionel Messi en difficulté face à sa meilleure proie, c'est-à-dire Valence, où il n'a pas pu marquer, ce qui est historique. Cela veut dire qu'il est un peu amateur. Quel que soit le cas, il faut toujours penser à la fin. Et je crois que Lionel Messi, il pense déjà dans la mesure où il se repositionne à peu près en passeur.
En tout cas, il n'a pas encore inscrit ce fameux 700e but qu'on attend des pieds de Lionel Messi. À noter qu'un Argentin en cache peut-être un autre, on y reviendra dans Radio Foot, c'est ce jeune Luca Romero qui est entré dans le match contre le Real Madrid. Il est gaucher, il mesure 1m65, il est rapide. Évidemment, on le compare déjà à Messi, mais son papa s'appelle Diego. Alors, on pourrait aussi penser à d'autres joueurs argentins. Il a même un frère jumeau qui s'appelle Tobias et qui est gardien, lui, de but. En tout cas, Luca Romero est rentré sur le terrain et il a 15 ans et
217 jours. Il a la même coupe de cheveux que vous, en plus.
En plus. Et c'était 15 ans, 7 mois et 6 jours aussi, si on veut parler en moi. Voilà pour ce qui était du clin d'œil à ce jeune joueur qui n'a joué que quelques minutes et qu'on reverra sûrement parce que le club de Mallorca le couve et le prépare pour l'avenir. Allez, direction l'Italie avec un de nos invités particuliers du jour aujourd'hui. Et il s'agit de l'Italien Matteo Cioffi. Bonjour Matteo.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez et surtout est-ce que vous me voyez? Je suis sûr qu'Olivier voudrait bien me voir.
Ah oh oui, toujours, toujours. Mais moi, ce que je préfère, Matteo, c'est vous entendre. Hein. C'est l'accent.
Ah, ok.
Allez, on y va pour l'Italie.
Parte il cross del Papu Gomez, il colpo di testa e gol. In vantaggio l'Atalanta che ha ribaltato completamente la situazione. Ora il colpo di tacco Benedeschi al limite, parte Dybala, ha segnato la Juventus. Paolo Dybala sotto l'incrocio dei pali con il sinistro.
La Serie A est la couronne convoitée de la Juventus de Turin pour un 9e titre consécutif. Eh bien, cette course vers le titre est-elle menacée encore par la Lazio de Rome cette saison? C'est la question qu'on va se poser. La Juve a pour l'instant 4 points d'avance, car l'équipe de Rome, elle, la Lazio, a été battue au cours de la semaine par l'Atalanta de Bergame. Est-ce impossible, Matteo Cioffi, pour la Lazio à présent, ou bien il reste encore 11 journées et ça va être 11 journées de suspense?
Ni, rien d'impossible dans la vie. Il reste encore jouer 11 journées de championnat. Et je peux vous assurer, s'il arrive qu'un seul joueur de la Lazio jette l'éponge maintenant, dans les minutes à suivre, il recevra une lettre de virement de la part de son patron Claudio Lotito, qui veut à tout prix gagner ce Scudetto. Donc, Faut pas oublier qu'en plus la Lazio est la première équipe qui a tout de suite demandé à la Ligue de Serie A, la Fédération italienne de football, de recommencer, de redémarrer avec le championnat, parce qu'elle croit à la possibilité de gagner le titre. Et c'est sûrement pas un faux pas comme celui de mercredi soir qui effacera la volonté, le désir de gagner de cette équipe. Cette équipe qui a concédé sa première défaite après 21 rencontres et après 10 matchs, elle a concédé des points à son adversaire numéro 1, la Juve. Donc, en plus, la Lazio peut compter sur le soutien de la part de l'opinion publique et de la presse, car l'Italie a besoin en ce moment de retrouver la grande passion pour son sport le plus aimé de tous. Le Corriere dello Sport, par exemple, titrait hier matin « Lazio non mollare », ce qui veut dire « Lazio n'abandonne pas ». Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs clés qui sont un peu en retard physiquement. On l'a remarqué face à l'Atalanta, par exemple Ciro Immobile, et surtout les meneurs de jeu espagnols, Luis Alberto, sont en retard. Mais le retard physique peut s'améliorer. Ce qu'il faut pas perdre, c'est l'esprit mental, c'est la tête. Il faut y croire, et c'est là que Simone Inzaghi, le coach, devra travailler. Lui, c'est un grand motivateur, il sait comment le faire.
Alors, ça nous promet une fin de championnat en Italie passionnante, et c'est aussi… on dit mano a mano aussi en Italie, Matteo?
Oui, oui. Ouais, mano a mano.
En espagnol, alors. je voudrais vous qu'on parle un petit peu tous ensemble, c'est de l'Atalanta, la belle histoire de ce championnat, certainement. Alors déjà l'année dernière, puisqu'elle s'était mise parmi les quatre meilleurs d'Italie et avait réussi à décrocher pour la première fois de son histoire une place en Ligue des Champions. La DA, la DS, hein, qui… met aussi du baume au cœur aux habitants de cette ville un peu martyr du coronavirus en Italie, qui est Bergame. Matteo, pourquoi l'Atalanta, il y a ce don, cet élan de sympathie, et surtout cet amour du jeu que démontre actuellement l'Atalanta, et qui peut-être nous démontre que le football italien, c'est pas seulement le catenaccio?
Oui, c'est vrai, c'est l'Atalanta, c'est la révolution dans le football italien. Moi j'adore cette équipe. J'aime beaucoup la regarder jouer, et j'aime dire que c'est l'équipe des enfants terribles, car ils font toujours quoi à l'adversaire d'être en difficulté, d'être à genoux, et puis soudain, ils se relèvent et ils changent complètement la dynamique du jeu, ils renversent le score, comme on l'a vu face à la Lazio. Donc, on peut dire que pour battre cet Atalanta, il faut vraiment travailler très dur. On peut marquer des buts s'il y a une erreur, à la moindre erreur. Il y en a pas beaucoup d'erreurs, comme par exemple le fait qu'un joueur fasse un autobut, et c'est la Lazio qui en a profité. Ou il faut trouver une frappe, comment dire, parfaite. C'est le cas toujours de la Lazio avec Milinkovic Savic qui a réalisé le deuxième but. Mais une chose j'aimerais beaucoup souligner, arrêtons de dire que l'Atalanta est une surprise, est une révélation, car l'Atalanta est une réalité à tous les effets. C'est pas un hasard si cette équipe a marqué 77 buts jusque-là en championnat, qui veut dire, attendez, écoutez bien, 2,8 buts par match. À mon avis, c'est fantastique. Et en plus, c'est pas un hasard s'il y a un défenseur qui s'appelle Robin Gosens, qui est allemand, qui a déjà marqué 7 buts. Vous savez quoi? Le record absolu en Serie A, 8 buts, pardon. Le record absolu en Serie A, c'est, pour un défenseur, c'est 9 buts. Donc, il est en train de franchir un record, ce jeune joueur allemand qui n'a jamais joué en équipe nationale allemande, je comprends pas pourquoi.
Moi, j'ai pas parlé de surprise, hein. J'ai parlé de belle histoire dans le championnat de l'Atalanta. Et Matteo, juste un petit mot avant qu'on fasse réagir nos camarades. Il y a un rêve en plus dans la tête des supporters de Bergame.
Oui, ce rêve, bon, c'est plus le, ce
qu'il y a. Il est à Lisbonne, ce rêve.
Oui, il y avait un rêve au début de la saison, c'était de se qualifier de nouveau pour la prochaine Ligue des Champions. C'est fait, chose pratiquement faite. L'autre grand rêve s'appelle gagner la, je le dis un peu bas, je veux pas trop le crier parce qu'après Olivier Pron, il s'en prend à moi. Mais je peux dire que l'Atalanta pourrait avoir des bonnes chances de gagner la Ligue des Champions. Et là, elle a rien à perdre. En plus, elle a l'enthousiasme, l'absence de pression et l'effet d'être conscient de faire un jeu qui plaît à tous. C'est un jeu offensif, un jeu international et un jeu extrêmement organisé grâce à son entraîneur Gasperini. Donc, il y a tout au menu pour essayer vraiment de faire le gros lot.
Olivier, est-ce que vous êtes sous le charme aussi du jeu de l'Atalanta?
Mais je suis sous le charme de Matteo Cioffi d'abord.
Merci Olivier, et ça on le savait.
Il croit toujours que je vais le vilipender, mais moi, Matteo Cioffi, j'ai une âme d'enfant. J'ai un côté un petit peu midinette. J'adore les belles histoires. Et l'Atalanta Bergame, c'est forcément une belle histoire. Je ne crois pas une seule seconde, contrairement à vous, qu'ils gagneront la Champions. Faut vite qu'ils changent de rêve. Je pense que j'adorerais vivre une histoire comme celle-là, mais je n'y crois pas. Mais j'en serais ravi. C'est super de voir ce club qui a, il faut quand même se souvenir dans la crise qui nous touche depuis 3-4 mois que, beaucoup considèrent que le match Valence-Atalanta-Bergame a provoqué énormément de choses dans la pandémie, qui était un match encore en public, avait 8e de finale. C'est la ville d'Italie. Vous me corrigerez, Matteo, bien sûr.
Oui, je vous corrige, Olivier. C'était Atalanta-Valence qui s'était joué à Milan. C'était le match d'aller.
Mais il y avait eu aussi un match aller. Enfin, il y avait eu.
Oui, c'était le match aller.
C'est vrai que cette ville a payé un lourd tribut. C'est une ville. C'est un club qui nous a enchantés dans cette campagne de Ligue des Champions. Elle a enchanté tout le monde. De voir qu'effectivement cette saison, elle va sans doute réussir la même opération. Elle a 6 points d'avance sur la Roma à la 4e place. Donc on peut imaginer voir l'Atalanta Bergame encore en Ligue des Champions. Eh bien, je m'en réjouis, Matteo. Et je ne me moque pas du tout de vous sur la question. Tant mieux. Heureusement qu'il y a des clubs nouveaux entre guillemets qui peuvent vivre de telles aventures et qui viennent rafraîchir un peu ce club très fermé des qu'on retrouve partout dans toutes les grosses compétitions. Voilà, l'Atalanta Bergame, c'est un peu comme l'Ajax l'année dernière. C'est un vent de fraîcheur et ça fait du bien.
La surprise pour ce qui est de la Ligue des Champions. Xavier Barré, un petit mot sur l'Atalanta.
C'est même assez plus rapide. Fort que l'Ajax. C'est même plus fort que l'Ajax parce qu'eux n'avaient jamais été en Ligue des Champions. Ils découvraient la compétition. Ils n'avaient jamais été en Coupe d'Europe des clubs champions.
Oui, ils n'ont pas la même histoire.
Voilà, donc c'est vraiment un exploit de voir l'Atalanta là. Alors, est-ce que c'est un peu lié aussi à la baisse de grands clubs comme Milan ou la Roma, la baisse de performance de ces clubs-là, probablement aussi un peu. Mais alors, moi, je vais tempérer cet enthousiasme. Bien sûr, je suis fan du jeu de l'Atalanta, de ces joueurs qui viennent de nulle part et qui viennent jouer à la table des grands champions. Mais j'ai une petite réserve, c'est malheureusement, ça ne va pas beaucoup profiter au football italien, alors que l'Atalanta est historiquement un club formateur, mais il se fait piquer ses meilleurs jeunes italiens par la Juve, par Milan, par l'Inter, chaque été. Et du coup, aujourd'hui, dans cette équipe de l'Atalanta, vous n'avez pas un Italien, ou presque pas, vous n'avez que des étrangers. Donc, c'est un peu dommage que ce club qui est étiqueté formateur en Italie, finalement, ce parcours ne va pas profiter au football italien, ou en tout cas à la Nazionale.
Rémi Ngono, un petit mot sur l'Atalanta?
Oui, pour d'abord prendre Xavier Barré, il n'y a que Sterling à Manchester City. Hein. Bon, voilà. Donc,
oui, mais ça, on sait.
Atalanta, j'aime bien Atalanta, mais... j'ai dit, c'est en football aussi un peu naïf. C'est très offensif, certes, et même le ratio du but, comme on était en train de le dire, Mathieu, tout de suite, c'est bien 2,8. Ce n'est pas extraordinaire aussi que ça. Ce n'est pas 3,5 comme on en a connu parfois avec le Real. Hein. Donc, aujourd'hui, Atalanta a des problèmes sur le plan défensif. Et quand on me dit que cette équipe qui ne peut pas jouer sur la Serie A, qui ne peut pas rêver du championnat, qui ne peut pas remporter le championnat, que cette équipe-là rêve quand même d'aller remporter la Ligue des Champions. Je voudrais bien applaudir, je voudrais bien y croire. Mais il y a un proverbe africain qui dit « La grenouille a beau grossir, mais elle ne se transformera jamais en hippopotame. »
Mais il n'y a pas que des champions qui gagnent cette Ligue des Champions. On le sait désormais, oui. Rémi, puisque l'année dernière, Liverpool n'avait pas été champion et avait remporté la Ligue des Champions.
Ah, mais quand même, Liverpool luttait pour le titre.
Ouais, bien sûr. Mais l'Atalanta vient de plus loin. L'Atalanta ne lutte pas pour le titre. Son histoire est plus compliquée. Merci beaucoup, Matteo Cioffi, d'avoir été en direct dans Radio Foot International. À très bientôt.
Ciao. Merci à vous.
Merci, Matteo. Allez, on file directement vers nos cartons, les amis.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Vos cartons, Olivier Pron, quelle couleur et à qui?
Ah là là, vous attaquez directement. J'y ai réfléchi depuis que j'ai ouvert un œil ce matin. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Et puis, la première chose sur laquelle je suis tombé ce matin, c'est un petit film d'animation vous avez dû sans doute le voir sur Twitter ou sur Facebook. Je l'ai partagé, moi, sur Facebook, parce que j'ai presque écrasé une larme en le voyant. C'est admirablement réalisé et ça raconte en 1:30, je crois, 1:40, le parcours d'un supporter de Liverpool. Ça part de 1990, ça vient jusqu'en 2020. 30 ans d'une vie, il déambule dans la rue. Il est d'abord un petit enfant avec son papa. Ensuite, il grandit, le papa vieillit, le papa disparaît. Monsieur continue son chemin dans la rue et puis il trouve une femme, elle est enceinte. Et puis finalement, il a un enfant. Et puis hop, le film se termine, il arrive à Anfield et Liverpool est champion. C'est admirable, c'est tout simple. En 1:30, vous comprenez ce qu'est le foot dans une ville comme Liverpool. Tout est dit. Alors, cherchez-le, tapez, je crois que c'est BLR.
On le mettra sur la page Facebook, Olivier.
Et vous l'avez mis sur la page Facebook.
On va le mettre.
Vous avez bien fait. On a eu les mêmes idées ce matin. C'est 1000 fois un carton vert.
Merci. Xavier Barré.
J'ai apporté un carton vert à deux joueurs qui viennent de annoncer leur retraite, deux internationaux français qui sont le contre-exemple de ce qu'on a tendance à vanter ces dernières années en France, c'est-à-dire les trajectoires météoriques des surdoués style Mbappé. Bien sûr, c'est un joueur extraordinaire, mais il y a aussi, pour faire une équipe, des joueurs qui ont pas ces trajectoires aussi faciles. Et je pense à deux en particulier, à Jérémy Mathieu, qui a annoncé sa retraite hier.
Moi,
le défenseur du Sporting qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, et puis aussi à Christophe Jallet, le défenseur qui était à Amiens cette saison et qui a été auparavant capitaine du Paris Saint-Germain. Tous les deux ont fait une petite carrière en équipe de France, et c'est l'exemple même de ces joueurs qui n'ont pas la trajectoire dorée que peuvent avoir certaines stars, mais qui s'accrochent à leurs rêves et qui finalement arrivent à de belles choses. Donc chapeau à eux, parce qu'ils y ont toujours cru et ils ont finalement fait des très belles carrières compte tenu de ce qui n'était pas forcément évident au départ, vu le talent peut-être limité qu'ils avaient à l'origine.
Rémi Ngono, votre carton est quelle couleur ?
La couleur sera verte et je vais la donner avec des larmes aux yeux à RFI. RFI qui a immortalisé Marc-Vivien Fouet, qui, faut-il le rappeler, est mort il y a exactement 17 ans. 17 ans après, le Cameroun, pays de Marc-Vivien Fouet, est incapable de faire un monument, de faire une rue, de réhabiliter même le centre sportif qu'il avait pourtant laissé presque déjà à la fin. C'est pour cela que j'ai dit merci à RFI qui a fait que Marc-Vivien Fouet vive ad vitam aeternam pour le football. Comme le dit un proverbe africain, l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas.
Merci beaucoup Rémi, j'ajouterai rien d'autre. Merci beaucoup pour cet hommage. Et justement, le retour de Radio Foot en émission quotidienne, ça sera à partir de lundi. Et lundi, justement, à 16h10 en temps universel, hein, n'oubliez pas, eh bien, ce sera toute l'émission sera consacrée au lauréat du prix Marc-Vivien Fouet. Et je vous invite.
Vous savez qui c'est, Annie ?
Être tous là. Non, j'ai voté, mais je ne sais pas encore qui c'est. Vous savez.
Menteuse ! Menteuse !
Merci à tous, chers amis, d'avoir participé aujourd'hui à Radio Foot International. Merci Rémi pour cet hommage. Merci Xavier. Oui. Merci Olivier. Merci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. C'est fini le confinement, le déconfinement et tout ça. Merci à tous.
Merci.
Et on se quitte en musique, comme d'habitude maintenant, et avec l'hymne de Liverpool. Bravo Liverpool, champion d'Angleterre.